Onda Azzurra. Vous écoutez la radio francophone d'Auckland, Amuse-Gueule.
Bonsoir, Kiora, good evening. Vous êtes sur Amuse-Gueule, la radio des francophones et des camprophiles. Et non, ce sont les francophiles que je voulais dire. Et des francophiles. Alors ce soir, on a Max à la technique. Bonsoir, Max.
Bonsoir.
Séverine, qui va nous parler de plein de choses. Bonsoir Séverine.
Bonsoir tout le monde.
Et tu as avec toi une invitée, c'est Sylvie. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir.
Bon, alors Sylvie Bandelier a écrit une thèse de linguistique sur l'attitude des habitants de Nouvelle-Zélande par rapport au téréo. On en parlera assez longuement. Séverine a des questions à te poser. Et donc pour commencer, on va écouter, une fois n'est pas coutume, une musique en anglais. C'est Radio Gaga. Parce que justement, il y a le film que vous avez toutes les deux vu. Vous pouvez m'en parler?
Oui, Sylvie l'a même vu deux fois. Donc Sylvie, t'en parlera mieux que moi.
Alors, c'est l'histoire du groupe Queen, si vous connaissez, de Freddie Mercury. Mmh. Et on découvre vraiment que c'était un génie. Mmh. Un génie musical avec un caractère assez spécial. Mais...
Mmh. Alors, le titre de film, c'est quoi exactement?
Bohemian Rhapsody.
Bohemian donc, Rhapsody. Ouais.
C'est le titre de la chanson la plus connue du groupe.
D'accord. Il passe encore un petit... Alors, je sais que c'était au Film Festival parce que je me souviens qu'il y passait. Est-ce qu'il joue encore au Rialto en ce moment, non?
Je pense que oui.
Oui. Okay.
Mais à mon avis, pas longtemps. Donc, allez-y, c'est vraiment un truc à pas louper. Moi, je vais y retourner avec les enfants à mardi parce que c'est pas cher. Mm-hmm. Et c'est comme si t'allais à un concert. En fait, tu dors pas la nuit, t'as tellement d'adrénaline que t'as la musique dans la tête. Et on a mis 3 jours à se l'enlever, mais c'est pas si vite.
Pour moi, c'est un exemple à suivre de volonté de vouloir arriver au but qu'on s'est donné.
Et on voit aussi que c'est un homme très généreux, non?
Voilà, ouais, exactement.
Ouais. Et il a surtout une vision et une confiance innée en son talent, ce qui fait qu'il a tous les obstacles, il les détruisait les uns après les autres. Donc c'est vraiment un exemple à suivre.
Bon, alors on va écouter Radio Gaga. Mm-hmm.
For hours and hours, we hardly need to.
Ou alors on est en train de s'écharper parce que
non
parce que Séverine nous parlait de Radio Gaga et en fait c'est pas Radio Gaga normalement le titre.
Non, c'est Radio Caca parce que le fils de Brian qui est
le guitariste
extraordinaire de Queen, son fils, donc ils habitaient à Antibes quand ils ont fait cet album et la radio les gonflait, disait plein de choses sur eux et puis ils en avaient marre et le fils a appris du français très rapidement, hein, ils étaient enfants et il n'arrêtait pas de dire caca caca, donc finalement ils ont associé, on va dire Radio Caca, mais comme personne ne comprend le français dans le monde anglo, enfin très peu, c'est devenu Radio Gaga. Voilà pourquoi on a passé cette chanson exceptionnellement en anglais. Ouais. Il y avait quand même un petit rapport avec
le français.
Mais petit.
Alors juste avant que tu poses des questions à Sylvie, tu voulais parler rapidement du Grelin Festival, Séverine ?
Je crois que c'est approprié puisque samedi prochain, donc le 24 novembre, dans le Grelin Park, le parc de Grelin, sur William Avenue, c'est facile à trouver, se déroule le plus grand événement communautaire en Nouvelle-Zélande. Donc on attend des dizaines de milliers de personnes, surtout s'il fait beau. La météo prévoit entre 13 et 19 degrés, peut-être de la pluie, mais bon, comme c'est dans une semaine, tout peut changer. Ça commence à 9 heures, c'est toute la journée, 9 heures à 6 heures, c'est gratuit d'y aller. Par contre, une fois c'est une place, en revanche, il faudra débourser si vous voulez acheter des choses faites en Nouvelle-Zélande, consommer de la nourriture, il y a de la musique, il y a Base FM qui est là avec des DJ et des groupes une bonne partie de la journée, il y a du cirque. Et moi, j'y vais surtout pour rencontrer les groupes, les associations écologiques du coin. Parce qu'elles sont très présentes à ce festival et on peut discuter, apprendre des choses sympas. Mais c'est un bon, surtout s'il fait beau, j'irai certainement. Je vous encourage.
Ok. On a pendant longtemps, Amuse-Gueule a eu un stand, un stand de Grelin Festival.
On faisait du récolte de fonds en vendant toutes sortes de. Je me rappelle.
Alors donc Sylvie, je vais plutôt te laisser la parole à toi, Séverine. T'as des tas de questions à lui poser à Sylvie. Tu la connais bien.
Je connais Sylvie depuis 9 ans, 10 ans.
Oui, on s'est rencontrés pour la première fois il y a 9 ans. Mmh.
Oui. Elle est venue dans l'école où je travaille, l'école de langue, Languages International, pour ne pas la nommer. Et là, c'est la troisième fois qu'elle vient. Mais déjà, je vais demander à Sylvie de se présenter. Alors, qui es-tu ? D'où viens-tu ?
Donc, je m'appelle Sylvie Bandelier, j'ai 34 ans et je viens de Suisse, donc Neuchâtel. Et en fait, je suis éducatrice de l'enfance. J'ai pratiqué ce métier pendant quelques années. Et puis, c'était trop difficile, donc j'ai repris des études, j'ai passé les examens d'entrée pour l'université et je me suis inscrite en bachelor en lettres et en sciences, en lettres et en langue anglaise et en sciences du langage. Et c'est là que je me suis passionnée pour la linguistique. Et donc, j'ai obtenu mon bachelor et maintenant, je suis en master en linguistique anglaise.
Voilà, et tu as toujours bien aimé tu es venue en Nouvelle-Zélande comme ça, un peu par hasard, et puis en 2009, et puis tu as été séduite, tu es restée longtemps, tu es restée 5 mois.
Oui, alors je suis venue la première fois en 2009, oui, et puis je suis restée 5 mois, après je suis revenue en 2013, je suis restée 3 mois.
Voilà.
Et ensuite, je suis revenue maintenant. Là,
et donc, quel est le but de cette troisième visite au pays du long nuage blanc ?
Alors, comme je profite de beaucoup aimer ce pays, comme je suis venue 3 fois, j'ai profité de choisir comme thème pour ma thèse la langue maori de base. Et après, j'ai un petit peu peaufiner ça donc sur l'attitude des habitants par rapport à la langue, donc sa place et comment les gens la perçoivent, parce que comme vous le savez, c'est une langue officielle et je voulais savoir comment c'était
on le sent
comment
pas
elle est, si elle est pratiquée, comment elle est pratiquée dans le pays,
oui,
tout simplement. Et c'est aussi très intéressant, c'est sa revitalisation. Il y a eu quand même un gros changement. Et ce qui pourrait être un exemple pour certaines langues qui meurent chaque jour, chaque semaine.
Oui, mais c'est vrai. Donc, tu t'intéresses au Tereo Maori. Tu es venu, d'ailleurs, tu as planifié ton séjour en fonction de The Maori Week, Tereo Maori Week. Tu es arrivé pour ça. Et voilà. Donc, tu Tu enquêtes? Qu'est-ce que tu fais exactement?
Alors oui, je suis venue exprès en septembre pour la Maori Language Week. Comme c'est un peu mon sujet, je pensais que c'était important d'être présente. J'ai manifesté dans la rue, enfin manifesté, j'ai marché dans la rue pour cet événement.
C'est-à-dire, tu as marché? Qu'est-ce que vous êtes allé sur? Alors, Queen Street, qu'est-ce qui s'est passé?
On s'est retrouvé à Albert Park et on a marché à Queen Street et les gens chantaient en maori. Et après, on a fini à Aotearoa Square.
Oui.
Et puis là, il y avait des discours, des concerts.
C'était pour promouvoir, c'était pour dire, voilà, on parle, le terreau est vivant.
Oui.
Voilà. Donc, il y avait du monde, cette.
Oui, il y avait du monde, oui. Oui.
Et alors, est-ce que c'était Pakeha Maori, pardon?
Oui, c'est
pas
la question.
Ouais, pardon, vas-y.
Alors, à ce que j'ai compris, il n'y avait pas toutes les écoles qui étaient là, les écoles d'Auckland. Il y avait beaucoup d'écoles Maori, plus que d'écoles Pakeha. Il y avait quand même un mélange, mais après, oui, je pense un peu plus de Maori, oui.
D'accord. Donc, t'as ressenti, puisque t'es arrivé juste pour ça, t'as ressenti que t'étais au bon endroit, au bon moment, et que, effectivement, cette langue est revitalisée, qu'il y a une forte volonté de la parler, qu'elle est vivante.
Oui, j'ai senti que les gens étaient très investis là-dedans, et c'était très émouvant de voir ces gens marcher et chanter, surtout. Enfin, ouais. Pour moi, ça m'a beaucoup émue. C'était bien, oui.
Oui, moi, après, c'est toujours la chanson qui m'aimait aussi.
Après, moi, je suis en train d'écrire la thèse, donc elle n'est pas finie. Hein. Je suis tout juste en train de la commencer. Donc là, je suis en train de faire comme une sorte d'enquête où j'ai écrit deux surveys, deux questionnaires. Avec un texte avec des mots maori et un texte tout en anglais. Et donc les gens ont des questions par rapport à ça, un peu détournées pour pas vraiment qu'ils soient
conscients de ce que tu es en train de leur faire.
Petite manipulation gentille.
Et aussi un questionnaire avec des questions plus directes pour savoir voilà leur avis tout simplement.
C'est pas toujours facile de savoir là ce qui se passe vraiment dans la tête des gens. Est-ce qu'ils ont envie qu'on parle maori? Est-ce qu'ils gardent leur langue? Parce que comme je te connais bien maintenant et qu'on en parle relativement souvent, j'ai vu que tu es passé par des phases d'optimisme et des phases de grand découragement.
Alors,
tu peux nous en parler?
Je pensais pas que c'était aussi complexe. La situation actuelle est assez complexe. Je pensais pas que ça l'était autant. Je pense que les gens veulent, enfin les Maoris surtout, et je pense aussi certains Pakeha, veulent que le terreau soit enseigné, soit obligatoire dans les écoles, mais ça ne l'est pas et ça n'a pas l'air d'être encore
d'actualité.
Mmh. Mais ça, on en parle, il y a beaucoup d'articles qui en parlent, donc ça bouge assez. Moi, je cherche pour mon expérience des Pakeha et des Maoris et c'est difficile pour moi de trouver des Maoris spécialement.
Qui accepteraient de... Enfin, des Maoris qui comprennent le terreau, tu veux dire, ou...
Simplement...
Réceptif.
Je connais plus de Pakeha aussi.
Ouais.
Donc, c'est pas forcément évident.
Est-ce que c'est intéressant pour toi, d'avoir des Maoris qui parlent Maori et des Maoris qui ne le parlent pas? Parce que c'est vrai qu'il y a toute une génération de gens qui ne parlent pas.
Alors, moi, je cherche toutes sortes de personnes qui sont de culture maori, qui ne parlent pas et qui parlent.
D'accord.
Mais surtout, je veux aussi avoir leur avis et pas seulement l'avis des Pakeha, parce qu'ils vivent aussi dans ce pays. Et voilà, c'est important pour moi.
Et à combien de... est-ce que beaucoup de gens parlent le maori en Nouvelle-Zélande? Qu'est-ce que tu en penses?
Donc là, je suis en train de faire cette enquête, mais je vais devoir aussi écrire une partie théorique. Et j'ai eu un an pour l'écrire, donc j'ai le temps, mais j'ai déjà fait quelques recherches. Et sur le site stats.co.nz, donc il y a des statistiques, toutes sortes de statistiques sur l'obésité, sur les suicides, enfin plein de trucs.
Ça me parle comme ça. Merci.
Et aussi sur les...
sur deux sujets néo-zélandais.
Hein, oui, c'est bien le sujet néo-zélandais.
C'est ça. Et aussi sur la population qui parle maori. Donc. Mais j'ai pas trouvé... j'ai trouvé en 2013. J'ai pas trouvé plus récent. Et d'après ce qu'ils disent, c'est qu'il y a sur 4,7 millions environ d'habitants en Nouvelle-Zélande, il n'y en a que 10 000 qui parleraient le maori.
Fluent, qui parleraient de façon fluide.
Donc, c'est très peu.
On a fait un recensement, c'est pas un recensement, si, c'est ça, un recensement il n'y a pas longtemps. Donc, tu vas peut-être avoir des nouveaux chiffres qui sortiront à la suite de cette enquête-là. Oui.
Donc là, ça ferait 0,22% de la population.
C'est vraiment rien.
C'est très, très bas.
Et... c'est marrant parce que tu sais, tu connais ma voisine Jo Panel qui est d'Afrique du Sud, blanche, et très très investi dans l'enseignement et la culture enfin surtout dans la langue, et qui a appris depuis 9 ans consécutifs sans jamais lâcher, d'une manière gratuite, parce que c'est en fait, quand vous êtes en Nouvelle-Zélande et vous êtes citoyen, tout vous est donné,
même
très facilement,
même résident d'ailleurs.
Résident, ah bah je savais pas, tu vois, c'est bien. Pour apprendre cette langue. Donc elle a fait tout le cursus, Unitech, après la petite boîte à la maison comme toi, la culture. Après elle est allée à AUT des années, et maintenant elle va dans tous les marais. Et maintenant elle enseigne gratuitement dans les écoles où sont ses enfants, parce qu'elle trouve que c'est anormal qu'on sorte je sais pas combien d'années d'école primaire où on sait danser le French cancan. Mais on ne sait même pas dire bonjour si c'était le français, quoi. Ils savent ce que c'est qu'un haka, mais ils ne savent pas te dire deux mots en maori. Donc, elle trouve ça complètement hallucinant et elle s'évertue à changer les choses. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'elle fait partie de ces 0,22%. Et je connais pas mal de blancs qui s'investissent comme ça. Donc, ce serait intéressant. Et en éducation, le terreau à l'école, est-ce que alors, il y a des gens qui le parlent plus?
Dans mes recherches, donc je suis allée sur le site educationcount.govt.nz. C'est le site du gouvernement, donc c'est fiable.
Officiel.
Oui. Et donc ils ont divisé par trois groupes. Donc il y a le premier groupe qui est l'immersion level 1-2. Donc c'est des étudiants qui sont à 50% et 100% en train d'apprendre le maori. Donc vraiment l'immersion assez totale. Et là, il n'y a que 2,5% des étudiants en 2018 qui sont dans ce cursus. Mais il y a une augmentation de 0,1 depuis l'année passée. Ensuite, il y a un deuxième groupe, donc c'est immersion level 3 à 5. Et là, c'est 3 heures jusqu'à 50% de leurs études par semaine. Donc, c'est les élèves qui ont choisi Téréo comme
option.
Sujet. Voilà. Et dans cette tranche, dans cette immersion, il y a 21% d'élèves.
Ah d'accord.
Et il y a 3% d'augmentation depuis l'année passée.
Bon, mais il y a quand même du positif.
Et ensuite, il y a encore un autre groupe, excuse-moi, donc qui n'ont pas du tout de Maori dans leur éducation. Et là, il y a 76,4% des étudiants.
76.
Mais dans ces 76,4%, il y a 56,8%. Qui apprennent ce qu'ils appellent le taha maori, donc mot simple, comme tu disais, des chansons, mais le strict
très
minimum.
Très basique.
Voilà. Et voilà, donc il y a une augmentation de 2% depuis.
Donc il faut vraiment pousser l'immersion. Ça devrait devenir une langue officielle. Enfin,
à mon avis, ça devrait être obligatoire dans toutes les écoles.
Alors, j'ai une question à ce sujet-là, parce que mon fils a eu du maori en intermédiaire, et... il a quand même réussi à finir l'année en ne sachant rien dire. C'est-à-dire que je lui ai dit, qu'est-ce que tu sais dire en maori ? Il m'a dit, kiaora. J'ai dit, tu plaisantes. Et donc, il dessinait sur ses jambes, etc. pendant le cours. Donc, et ça me fait penser à un Canadien à qui j'ai parlé, à qui il était obligé d'apprendre le français, hein, le Canada étant ce qu'il est. Et il m'a dit qu'il détestait, il avait détesté apprendre le français. Et j'ai aussi mon mari qui a été un des premiers à qui c'était à l'université, ils étaient obligés de prendre maori. Et je me souviens qu'il m'avait dit qu'il était très résistant à ça. Alors, est-ce que l'enseignement obligatoire à l'école doit s'accompagner d'autres choses pour que il y ait faire comprendre aux enfants l'importance d'apprendre ce langage-là, plutôt que, parce qu'il y a peut-être une attitude dans certaines familles pakeha. Alors moi, ça m'a brisé le cœur que mon fils se comporte comme ça, parce que j'ai eu une longue discussion avec lui à ce sujet-là, ça n'a rien changé d'ailleurs. Mais est-ce que justement il y a besoin d'un autre travail que le fait de le rendre obligatoire?
Oui, je pense que l'attitude, c'est quelque chose d'important. Après, si la famille n'est pas vraiment ouverte à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas forcer l'enfant.
Mais peut-être leur donner que l'école, avec l'enseignement, il y a aussi une raison pour laquelle on leur apprend cette langue.
Moi, je pense que c'est tout dépend. Il n'y a pas de mauvais élèves, il y a que des mauvais professeurs. Donc, si on recrute des gens passionnés comme Troy, qui est à la tête de Stefano Fariki à Richmond Road, il y aura pas de problème. Tout le monde va vouloir apprendre.
Par contre,
c'est vraiment recruter les gens qui sont passionnés, donner-leur les moyens, ils vont faire des choses fun, sympas, les enfants vont apprendre, tout le monde va vouloir s'y mettre. C'est vraiment, il y a vraiment du. C'est tout à fait possible.
Mais par contre, je sais qu'en Nouvelle-Zélande, il y a déjà une pénurie de professeurs. Et en discutant avec Joe Panel, justement, il y a très très peu de locuteurs maoris qui sont assez compétents pour enseigner le maori. C'est ça le problème dans le pays en ce moment.
J'espère qu'ils ont payé triple.
Et dans les écoles d'immersion, ceux qui sortent, parce que moi je me souviens, moi, ma prof à Unitec, c'était une, au marais de Unitec, c'était une elle avait une, je sais pas, une vingtaine d'années, 25-30 ans, et elle venait des écoles d'immersion maori. Donc est-ce qu'il y a, sortant de ces écoles, est-ce qu'il y a justement, les écoles maori d'immersion totale d'ailleurs, est-ce que c'est que le primaire ou est-ce que ça va jusqu'à...
Non, non, tu peux choisir tout, tu peux jusqu'au... par exemple, tu vois, à Western Springs, il y a une grosse unité, mais c'est dû à la volonté du principal. Il a toujours poussé ça.
Oui, ouais.
On leur construit des locaux superbes et bon, c'est pas la plus grande partie des élèves, mais ils sont totalement présents, totalement intégrés à l'école et ils ont énormément de
succès.
Ils
sont en immersion
totale. Ils gagnent
des
cas par cas, ouais. Ils gagnent ouais. des présentations, ils ont ouais. des awards dans tout. Ils sont fluents jusqu'à 18 ans. Ouais, ils font ouais. du maori. Ouais. Mais ce que je voulais dire, je me rappelle plus. Je voulais dire un truc.
On parlait de l'attitude des enfants et comment leur donner envie d'apprendre. Et on disait aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de, il y avait pas beaucoup de locuteurs
maoris. Ce que je voulais dire, c'est que je le sais par Joe, tous les gens qui sortent d'une formation et qui sont fluent maori, enfin qui sont bilingues en téléo et anglais, on leur propose tout de suite 20 postes. Quoi. Ils ont un choix. On les recrute, on leur dit tu voudras travailler pour moi, tu voudras. Eux, ils ont du travail par-dessus la tête.
Parce qu'il y en a
que j'espère qu'ils sont. Oui, mais ils sont rares, voilà. Mm-hmm. Mais donc, si vous voulez faire quelque chose, devenez bilingue. C'est pas si difficile, hein. C'est pas comme si vous appreniez le français. Donc, c'est vraiment c'est pas très difficile.
Oui.
Non.
Tu sais le parler?
Bah, couramment.
Moi, j'ai essayé.
Jo a quand même dit que c'était difficile pour elle.
Parce que c'est sa première langue, quand on en parle déjà deux ou trois.
Bah, moi, j'ai trouvé ça difficile. Je trouve pas ça pas facile.
La prononciation est super facile.
La prononciation, oui. Mais
il y a pas de grammaire.
Bah, si, il y a la grammaire. On te l'apprend pas, mais on te l'apprend pas, disons, oui. de la façon française. Mais
tu découragerais les gens en disant que c'est difficile. C'est assez facile. C'est totalement possible.
Toutes les langues sont. Il faut s'investir dans chaque
oui,
fois qu'on
achète. L'apprentissage d'une langue, c'est pas quelque chose de facile. On en sait toutes quelque chose, non?
Oui. Mais je pense que c'est tout à fait possible et qu'on a besoin de.
Bien sûr. C'est tout à fait possible.
Ouais. Et on écoute une petite musique?
Alors, j'aimerais juste conclure en disant que voilà, il y a une langue qui meurt toutes les deux semaines. Donc, la langue est égale à la culture. Donc, si on garde la langue, on garde la culture. Donc,
ouais, t'as raison.
Voilà.
C'est important.
Oui.
Essentiel. Et dans la langue. Auto manga tsutonu o te moana pari mai koe ko koe te awa I takuremu ko taua ano taua no te one I kurawaka he tiaki I te penua nei o te aro he simi kaha tātou he mana tuku ho mai ano Whenua haumako, wairua ora, whai a tōra ki te pūtua. Nā tāwhiti no sata, no te whenua o te atua tātou. Aha ko anō ia mai koe, ka whawhai tonu mātou mō. He kōrero tō te whenua, he te mai ki a tātou. He toa au mōna e o ke nei e. E kore ue hina, e uri no te roi mata, te toto o la tūpuna. E kore ue ue hie. Kia kaha tātou ki tau I pai e, whakatina kau ai mutuna. Whenua haumako, wairua ora.
Alors, t'as choisi cette chanson pour quelle raison, Sylvie? Tu peux nous en parler un peu?
Alors, c'est Stan Walker, pour ceux qui connaissent. Il est d'ici et il a des origines australiennes aussi. C'est un jeune de 28 ans d'origine maori et qui s'est fait récemment opérer de l'estomac, une ablation de l'estomac, parce qu'il a eu un cancer d'estomac. Et il était en concert à Auckland samedi passé.
Ouais, donc, impressionnant.
Il a maigri beaucoup, forcément, ouais. Mais il est encore là.
Il était là.
Et super. C'est très talentueux.
On voulait te poser des questions, quelques autres questions sur ton travail. Ton processus de recherche, ça fonctionne comment? Par exemple, c'est difficile parce qu'une thèse, c'est quand même un sacré morceau à écrire, à pondre. Il y a des gens qui passent des années et des années dessus. Oui. Donc, tu nous disais, tu as une partie théorique et une partie plutôt empirique, j'imagine, à base d'enquête. D'abord, pour la partie théorique, comment tu t'organises ton travail de ce côté-là?
Alors, ça a un petit peu changé depuis que je suis arrivée, mais d'abord, comme c'est une thèse pour la Suisse, je dois introduire la Nouvelle-Zélande. Donc, quelques bases pour comprendre la Nouvelle-Zélande. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, parce que sinon, j'en ai pour toute la thèse.
Oui.
Parler aussi de la culture. Ben, dans l'histoire, parler de la culture maori et des colons, forcément. Et également, la langue maori, un peu peut-être la sonorité, exemple de mots, enfin, pour qu'ils... Les gens, en lisant la thèse, ils se rendent compte un peu de la langue, la famille et tout ça.
Est-ce que tu penses parler de la situation socio-économique des Maoris dans la Nouvelle-Zélande d'aujourd'hui?
Alors, à la base, c'était vraiment sur ça que je voulais. Après, je me suis focalisée sur la langue, vraiment.
D'accord.
Mais ce serait intéressant de toute façon de le nommer.
De l'évoquer à un moment donné.
De l'évoquer, oui. Ouais. Ça, c'est sûr.
Est-ce que tu penses que... Je pensais à ça, pour reparler d'Unitec encore. J'ai trouvé... Enfin, j'ai pas énormément d'exemples, donc c'est juste une intuition plus qu'autre chose. Mais quand je rencontrais des gens, des Maoris qui sont plus âgés, à qui on a empêché, en fait, de parler le Maori, et des jeunes d'une trentaine d'années, et qui parlaient le Tereo, et j'ai vraiment eu le sentiment à chaque fois que j'ai rencontré... Alors, quand je dis ces jeunes, ils ont une trentaine d'années, donc ce sont des adultes, on peut plus vraiment les appeler des jeunes. Oui. Mais on a un sentiment, je trouve, quand on les rencontre, on sent qu'ils sont vraiment bien dans leur peau. Ils sont bien dans leur peau, bien dans leur culture. Ils n'ont pas de choses à... Il n'y a pas de problème, en fait. Et donc, il y a une espèce d'acceptance aussi de la société biculturelle dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Mm-hmm. Mais je trouve que c'est des gens avec cette appropriation de la langue, reconnaître sa langue, connaître sa langue, ça leur donne une force incroyable. Et je pense que... Et j'en ai parlé avec des amis qui étaient kanaks, et ils me disaient que, justement, c'était effectivement un point très, très important. C'est que cette... Alors, est-ce que tu as touché ça du doigt? Est-ce que tu as eu ce sentiment-là? Ou est-ce que tu as...
Alors, malheureusement, j'ai pas encore beaucoup rencontré de personnes. J'ai rencontré
ça a pas été facile.
J'ai rencontré une copine de Joe qui est donc qui a son âge, mais je sais pas.
Ben, tu parles de ma
Joe? Non, oui.
Qui a mon âge, qui est retraite.
Voilà. Et en fait, elle m'a raconté que sa mère était, parce que je crois qu'elle est plus, elle est décédée, était Maori et mais elle ne pouvait pas le parler. Donc, elle ne l'a pas enseigné à sa fille. Et donc, maintenant, à 48 ans, 50 ans, elle est en train de l'apprendre. Donc, parce que, bah, comme ça, elle est fière de ce langage. Et elle a envie de le montrer et de l'apprendre. Parce que ça fait partie d'elle.
Je me souviens qu'on nous avait parlé aussi de personnes donc, qui avaient la cinquantaine et qui se retrouvaient avec des enfants. Eux ne parlant pas maori, mais leurs enfants parlant maori. Et aussi des enfants qui, parfois, les regardaient un petit peu de haut parce qu'ils parlaient maori. Et ils disaient que c'était difficile en termes de génération d'expliquer aux enfants le trauma que leurs parents avaient subi et pourquoi eux, comme génération, avaient dû vivre sans cette langue-là. Et c'est un truc qui est difficile.
Perdue.
Ouais.
Et le problème, c'est que si tu ne parles pas la langue, le verbe, c'est le souffle, c'est le mot, c'est l'essence de la vie, si on parle en termes assez spirituels ou symboliques. Donc le mot, c'est tout. C'est ce qui te permet d'être. Et si tu ne parles pas ta langue, tu n'es plus, tu disparais, tu perds beaucoup de ton pouvoir. Donc, se réapproprier sa langue, l'apprendre, sa culture, donc, mais c'est d'abord, ça passe par la langue, premier, c'est te réapproprier un pouvoir majeur. Et quand tu dis que ces enfants se sentent bien dans leurs bottes, mais je le sens tellement à Richmond Road, en allant voir le Kaparaka, où j'ai été gentiment invitée, après avoir fait 8 ans d'école sous toutes ses formes et avoir beaucoup bossé pour tout le monde, je viens d'être acceptée dans le monde Tereo et Maori, et j'ai été très honorée, et j'ai vu une puissance. Parce qu'au début, j'ai eu presque peur de ce que faisaient les enfants. Et on m'a dit, non, il ne faut pas avoir peur, c'est juste la puissance. Et la puissance passait par les chants, passait par les danses, passait par la langue. Et voilà, en fait, on a vraiment tout à gagner d'avoir cette puissance presque primaire, j'allais dire, en Nouvelle-Zélande. Si on perd ça, on perd un truc dingue que les gens nous envient dans le monde entier. Les touristes viennent beaucoup pour découvrir la culture maori. Enfin, pas tout le monde, hein, mais beaucoup. C'est pour ça un but important. Donc, je pense que politiquement, il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Donc, le travail que fait Sylvie est fondamental pour moi.
Le problème majeur, c'est que j'ai rencontré en parlant, désolée, mais avec des Pakeha la plupart du temps, ils ne trouvent pas ça utile d'apprendre la langue maori parce qu'elle n'est parlée que dans cette partie du monde.
Et il y a pas que ça non plus. Je parlais d'ailleurs. Je suis en train de me dire, il faut que je te mette en contact avec elle, que je suis sûre que ça t'intéresserait. L'amie d'une amie que j'ai rencontrée à une soirée, donc elle a mis sa fille elle a fait son primaire dans une école d'immersion. Koanga, ça s'appelle, c'est ça, non?
Koanga, oui.
Et donc, mais maintenant, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils font le primaire, je crois, et puis ensuite, ils vont en high school.
Koanga, c'est le nid.
Ouais. Donc, en fait, elle se retrouve dans une école monolingue maintenant, elle me dit, j'ai peur qu'elle le perde. Mmh. Et alors, donc, moi, je lui expliquais qu'on tournait en France et que ça avait de l'immersion. Elle me dit, mais ouais, mais toi, t'as ça. T'as un lieu d'immersion totale. Elle dit, moi, je l'ai pas, ce lieu d'immersion totale. C'est-à-dire que la difficulté que t'as, toi, à rencontrer peut-être un grand nombre de parlants maori, de personnes qui parlent le maori, elle l'avait parce qu'en fait, elle me disait, trouver de l'immersion pour une adolescente, c'est super difficile.
Elle peut aller, il y a plein d'endroits. Elle peut aller dans le Escape, elle peut aller dans
Elle est d'origine maori, donc je pense qu'elle sait. Mais c'est aussi que ton enfant, qui a 14 ans, ait envie de le faire.
Ah ouais,
et là, en l'occurrence, elle me dit, c'est une autre problématique aussi. Ouais. Donc, il y a pas seulement le fait qu'on ne le parle que en Nouvelle-Zélande, il y a aussi le fait que c'est difficile. Notre amie Charlotte adorait le maori, mais elle avait beaucoup de difficultés à le pratiquer. Ça demande un effort comme Joe pour vraiment s'investir à 100%.
Plus tu sais. Donc il y a un réseau énorme de connaissances, de gens qui sont prêts à t'accueillir. En revanche, ce qui est difficile, c'est la position de Sylvie qui veut enquêter, qui veut apprendre, qui pose des questions, qui dérange. Et qui elle est? Elle n'est pas maori, elle ne parle pas la langue. Et elle vient d'un pays de colonisateurs, la France. Ils associent ça à la France. Donc c'est pas très welcome. Si quelqu'un, un jeune étudiant ou quelqu'un qui était maori, qui avait perdu la langue, faisait ce travail, je pense que ça aurait été reçu différemment. Mais Sylvie peut peut-être nous en parler en demi. J'ai trouvé ça choquant de la part de l'université d'Auckland.
Parce qu'attention, faut pas mélanger l'ensemble des Maoris avec l'université d'Auckland.
Non, voilà, c'est un peu
parce que c'était Wananga, par exemple, l'université Maori, par exemple. Je pense que tu serais reçu très très différemment. Ou je pense à mon professeur Henny, là, avec qui je prenais les cours par correspondance. Elle m'a dit justement, parce qu'on parlait il y avait une des questions dans ce qu'on faisait, où on nous demandait comment faire pour que la culture maori puisse se développer plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et une des réponses, elle me disait, c'est faire ce que tu fais toi. C'est-à-dire, tu viens dans ce pays-là et t'essayes de comprendre la culture, etc. Donc, il y a quand même de la part du peuple maori et des maoris une volonté de faire connaître sa culture.
Oui, bien sûr. Mmh. Bien sûr.
Donc, l'université d'Auckland, c'est peut-être, faut faire attention, peut-être à dire que c'est bien, c'est avec eux que tu as eu des soucis, en fait. C'est ça. Tu peux nous en parler un peu, ça ne dérange pas ou...
Ça va être très court. J'ai juste envoyé un email pour essayer de parler à un professeur et. J'ai été mal reçue.
Ouais. Donc bon, on va.
J'ai été très bien reçue par une autre qui est à l'université à Auckland.
D'accord, ok. Oui, donc j'ai tombé sur quelqu'un qui était un peu pas très coopératif.
Je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport aux enfants qui après perdent peut-être l'envie ou bien. Alors moi qui suis en études de linguistique, on a appris beaucoup de choses dans les apprentissages des langues secondes et les enfants, s'ils sont pas justement dans l'environnement de la langue. Ils peuvent passer par une phase de rejet parce que leurs amis parlent anglais ici, par exemple. Donc, tous les enfants passent par une phase de rejet. Et par exemple, j'ai mes neveux qui sont à moitié chinois, à moitié français, suisse. Ils veulent plus parler chinois parce qu'à Lausanne, personne parle chinois. Enfin, voilà, je crois que c'est
assez
normal.
Est-ce que ça revient après? Parce que parmi nos amis qui ont des enfants plus grands, ils m'ont souvent dit que, passé l'âge de l'adolescence, au bout du compte, hein, ils se retrouvaient en fait à... ils voulaient renouer souvent avec ça, et parce que les gens tout d'un coup autour d'eux se
regrettaient.
Disant, tu parles ça aussi, t'as de la chance. Et donc là, tout d'un coup, il y a de nouveau une revalorisation. Il y a cette espèce de trou noir, là, qui est un trou noir à beaucoup d'égards, d'ailleurs, pas que les langues, mais de l'adolescence avec ce.
Oui. Je crois qu'ils se rendent compte que ça fait partie d'eux. Surtout si les parents leur ont parlé, leur ont enseigné la langue, enfin, leur ont parlé pendant leur enfance. Ils se rendent compte que ça fait partie d'eux et ils vont le reprendre. Normalement, c'est quasi 80% des cas.
Et du coup, j'avais une question à ce niveau-là, c'est que je vois dans les écoles, souvent ils font des AK où on voit tous les élèves en même temps faire un AK et parler tous maori, forcément. Donc, inclus les maoris et kiwi et toute autre langue. Du coup, comment ça se fait qu'ils ne sont pas plus accrochés à la langue et du coup, je me demandais, est-ce qu'ils savent ce qu'ils disent ou est-ce que...
Alors, d'après ce que j'avais discuté encore une fois avec Joe Panel, qui est au musée, donc des fois, elle fait des tours avec les enfants, puis elle leur parle des mots maoris, et comprennent pas. Même maison, ils savent pas. Donc, en fait, ils apprennent les chansons comme on apprend quelque chose par cœur, mais
c'est vide de sens.
On leur enseigne pas vraiment le sens. C'est malheureux.
Enfin, d'accord.
Il manque la volonté politique.
Ils sont quand même, on n'est pas en Australie, il y a quand même le fait que tous les documents soient écrits dans les deux langues. Il y a une volonté politique pour le coup. Tu peux apprendre, comme tu disais, tu peux apprendre la langue gratuitement. Il y a peut-être d'autres
choses. Passer au niveau supérieur.
Oui, c'est ça, passer à la vitesse.
On peut se contenter de, qu'est-ce que tu avais dit, 0,22% ou pas, quoi.
Mais ça reste
lamentable.
Très petit.
C'est comme c'est net, quoi. Mais bon, on continue.
Merci beaucoup, Sylvie.
De rien, merci.
Alors, on va écouter une musique pour lancer ton sujet.
C'est ma chanson préférée de Brel, Les Marquises.
Ils parlent de la mort comme tu parles d'un fruit. Ils regardent la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté, et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise au marquis. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolé. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit des soumises, et l'Alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard, le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.
Et voilà, c'est beau, hein? Je parle, hein?
Vas-y.
Ok, c'est parti. J'attendais que tu me lances. Mais excuse-moi. Que tu me lancerais. Et
non,
je
non
me
mais
lance
comme tu
seule,
je t'entendais parler, donc je vais laisser couler.
En fait, voilà, j'ai choisi cette chanson parce que Les Marquises, c'est un petit archipel en Polynésie, perdu, où Brel a fini sa vie et qui risque très fort de disparaître. C'est une des premières choses qui va disparaître à cause du changement climatique qui s'opère à une rapidité phénoménale. Et je voulais parler à tout le monde de quelque chose d'actualité. Moi, je peux parler du climate change, du changement climatique non-stop. Je peux faire une émission qui dure 2-3 heures, ça ne me fait pas peur. Mais là, je vais résumer parce que le 23 novembre, donc c'est ce vendredi, s'opère le premier Climate Friday. Il faut le dire en anglais, hein. Hein, t'es d'accord? Alors, oui. Climate Friday, qu'est-ce que c'est? C'est le premier qui se déroule en opposition au fameux et dramatique, pathétique Black Friday. Je crois que tout le monde. Ça vous dit quelque chose, le Black Friday?
Oui, c'est les grands soldes, là.
C'est la grande n'importe quoi. Donc, partout dans le monde, les gens se précipitent, se battent. Il y a des gens qui ressortent. C'est des émeutes, quoi, pour avoir une méga télé, alors qu'ils en ont déjà deux. Mais elle est tellement pas chère qu'on va la prendre. C'est comme c'est avant Noël. En plus, ils font tous leurs cadeaux de Noël pas cher. Donc, en opposition à
consommation intense,
effrénée. Complètement la folie. Les gens qui réfléchissent ont dit stop. On crée le Climate Friday. Alors, le Climate Friday, on le trouve sur tous les réseaux. Ils ont une page Facebook et c'est sur un fond vert. Climate Friday en noir, le Friday, avec une goutte d'huile noire qui pend. Alors, est-ce que c'est une larme parce qu'on est tellement triste de ce qui se passe? Est-ce que c'est une goutte de pétrole parce qu'on n'en a plus et il faut arrêter de faire n'importe quoi? Après, c'est à vous de décider. Mais voilà, qu'est-ce que tu en penses, Sylvie, de ce...
Ce qui est important à dire, c'est qu'il faut boycotter ce Black Friday, donc ce week-end-là.
Voilà. D'accord.
Ne sortez pas et n'allez pas au magasin.
Ça consiste à vraiment riposter. Non, on ne fait pas rien.
Non, boycotter. Je veux dire,
ne pas acheter. Tu ne vas surtout pas acheter.
Boycotter les centres commerciaux.
D'accord. Tu ne fais pas comme tout le monde, quoi.
D'accord.
Tu réagis, tu dis je vais pas dans le mauvais sens, je vais dans le bon sens. Il y a des tas de manifestations qui se déroulent sur tout le week-end, vendredi, samedi, dimanche, et des associations. Alors je vais vous en dire quelques-unes qui sont en France parce que j'ai cherché.
Ce qu'il faut préciser, c'est que là on parle de la France.
Mais c'est mondial.
À Auckland, mais Auckland pour l'instant on n'a pas vu qu'il y.
Attends, j'irai à la fin, je leur dirai à la fin. Mm. On va faire quelque chose. Des associations telles que donc Zero Waste France, Boycott Citoyen. I boycott, c'est-à-dire je boycotte, je fais quelque chose. Les Amis de la Terre, Résistance à l'agression publicitaire, United for Earth, ça fait déjà pas mal d'associations, mais il y en a plus, se réunissent, se mobilisent ensemble contre la surconsommation. Par exemple, nationalement, on a décidé de boycotter Amazon. On a déjà boycotté Coca-Cola tout le mois d'octobre. On boycotte qui encore ? Tout ce qu'on peut. Quoi.
Le truc pas trop dur quand tu vois pas de Coca et ni de Sprite.
Ouais, mais...
Non, mais faut le dire, je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. C'était sur ma page Facebook.
Ouais, là,
je boycotte le café.
Et donc...
Les épinards, maman.
Donc, c'est surtout un mouvement citoyen. Hein. Donc, j'ai bien dit, c'est le 23, 24, 25. C'est pour dénoncer le Black Friday avec les citoyens pour défendre le climat. Et il est surtout... donc, en fait, c'est un réel vendredi noir pour le climat et la biodiversité, cette surconsommation sur le vendredi. Donc, il faut, les gens, on en a assez, quoi.
D'autant plus que c'est les grosses marques, c'est pas un truc d'artisans, de marché, etc. C'est vraiment les grosses multinationales qui s'en mettent plein les fouilles.
Et qui polluent beaucoup.
Et qui polluent. Donc ça va vraiment, c'est complètement marché sur la tête. Et je voulais dire une chose, puisque il y a une association en France qui est très suivie là, de plus en plus, qui prend une. Ça vous dit quelque chose? Il est encore temps.
Oui, ben parce que j'ai vu sur ta page que j'y suis allée.
Sinon tu saurais pas. Non, le ruban vert. Le ruban vert, il est encore temps.
Ah, j'étais vue avec une photo avec le ruban vert.
Oui, mais enfin, il y a que moi que t'as vu.
Oui, il y a que moi, j'ai vu.
Bon ben, enfin, heureusement, je me sens pas tout seule parce qu'il y a 130 000 personnes qui ont marché pour la première marche. En fait, ça a été créé suite à la démission de Nicolas Hulot, qui était le ministre de l'Environnement pour Macron, et qui n'a rien pu faire parce qu'on lui mettait tellement de bâtons dans les roues. Il a dit, ben, ça sert à rien, je reste, je pars. Donc il a démissionné début septembre, il est rentré 2 semaines de vacances, première interview sur France Inter, voilà, et il a dit, voilà, je décide de démissionner. Ça a fait un olé parce que les gens se sont sentis un peu lâchés. Et puis il a dit, mais non, on fait quelque chose, mais sans le gouvernement, puisqu'ils sont pas avec nous. Donc ils ont créé un mouvement qui s'appelle Il est encore temps, qui se veut assez optimiste et courageux, parce que on n'est pas beaucoup. Et on veut changer tout le monde. Heureusement, on a besoin que 3,5%, la masse reste la masse, apathique et passive, et 3,5% se bouge et tout change. Donc, en fait, on va y arriver. On est assez près de ça. Je parle à tous les gens qui veulent faire quelque chose avec moi, là. J'ai vraiment besoin de vous. Donc, il y a 130 000 personnes qui sont allées à la première marche.
En France.
Le 13 octobre, ils en ont fait une autre. Le 13 octobre, 86 villes en France et à l'étranger, parce que ça a fait traîner de poudre, sont à nouveau descendues dans la rue pour le climat. Et maintenant, elles sont en Belgique, en France, Suisse. En Suisse, au Québec. Tous les pays francophones se joignent à ce mouvement qui est complètement citoyen. Il n'y a pas de parti. Personne ne cherche à récupérer le mouvement. Très pacifique. Mais des gens qui lâchent tout. Ils lâchent leurs études, ils lâchent leur boulot, ils lâchent leur famille, ils lâchent leur maison. Ils ont vraiment pris conscience qu'il n'y avait pas une minute à perdre. Donc, ce que je voulais dire, c'est pour ça que des fois je me mets un petit peu en colère, parce que de la part d'une communauté scientifique qui devrait être beaucoup plus au courant que moi, j'arrive toujours pas à croire que je leur apprends des trucs, parce que alors moi j'ai pas fait d'études, mais il y en a qui en ont fait. Mais les gens scientifiques, donc très haut niveau, donc c'est le GIEC, c'est un groupement les gens qui étudient le changement climatique, donc qui viennent de tous bords, hein, il y a pas que, mais c'est très poussé. Ils ont déjà démontré depuis des années qu'il y avait un problème. Et ils tirent l'alarme de plus en plus. Donc c'est eux qu'on suit, quoi. Priorité. Ah oui. Ce que tout le monde voudrait qu'il se passe, c'est que la priorité soit donnée autant dans le monde politique, économique et civil à sauver la planète. On demande pas grand chose. On demande juste à continuer à vivre. Non seulement nous, mais la biodiversité. Si on est tout seul, parce qu'il y en a beaucoup qui vont mourir, hein, mais les plus intelligents survivront, parce qu'ils sont des brouillards, on y arrivera. Mais on va être tout seul. Il y a plus 60% des espèces sont. Ça va être moche. Il y a pas d'arbres. Il y aura plus de poissons. Je te dis pas le monde que. Donc.
Il va faire chaud aussi.
Bah ça, il fait
déjà
chaud.
Commencé. Hein.
Et surtout, il va faire chaud, c'est quelque chose. Tu peux t'en protéger si t'es intelligent, que tu sais comment faire. J'ai déjà réfléchi à ça. Mais c'est pas ça le problème, c'est qu'il va y avoir la guerre. La guerre dans tous les pays où on peut encore vivre. Les migrants qu'on a eus en France, tu vois, il y a quelques années, j'étais pas là, c'était d'être en 2015 qu'ils sont arrivés, les migrants. Quand est-ce qu'il y a eu cette vague de migrants?
Je crois que c'est 2015, oui.
Ils ont passé. Ouais, en fait, j'étais là, en France, à ce moment-là. Et les gens arrivaient, tu sais, les touristes, juillet, août, du monde entier, étaient sur la plage en Italie, en Croatie, en Grèce, et au milieu de leurs serviettes et chichi beignets, arrivait une petite famille noire complètement démolie avec un gamin mort dans les bras. Ça foutait en l'air les vacances, quoi. Donc ça, on en a eu quelques milliers. C'est la goutte d'eau. On va avoir des millions. Et quand on a des millions, on n'arrête pas. Hein. On ne ferme pas de frontières, on ne fait pas de murs. Et ces millions-là, ils ont envie de quoi ? Ils ont envie de survivre. C'est normal. Hein. Moi aussi, je ferais ça. Tu vas où tu peux, quoi, pour quand c'est tellement la guerre chez toi, créée par les autres êtres humains comme nous. C'est pour ça que je suis un petit peu... qui surconsomme, c'est-à-dire qu'on voit vraiment, on est des enfants pourri gâtés et on pourri gâte la terre, mais on se rend pas compte que ça va nous revenir en effet boomerang d'une rapidité, parce que tout le monde dit ah mais je le verrai pas, ben non, ben vous allez le voir et ça va être trop tard. Donc c'est pour ça qu'il y a ce mouvement qui dit il est encore temps, parce que si tout le monde prend conscience, c'est très important. C'est bon. Tout le reste n'a aucune importance.
Rejoignez, il est encore temps sur Facebook.
Et j'aimerais surtout qu'on arrête de penser que je suis un petit peu hippie ou fofolle ou que je ne sais pas ce que je dis, parce que le sérieux a changé de camp. C'est plus les gens qui ont des costumes cravates ou qui sont en haut de leurs chères études. C'est pas eux qui sont sérieux en fait. Tous les gens qui dénigrent ça.
Oui, il est quand même.
Non, je suis désolée, mais.
Non, je parle des scientifiques qui.
Mais il y en a beaucoup qui sont pas. Regarde les réceptions que j'ai eues il n'y a pas si longtemps que j'ai. Tous les jours, je le vis.
Est-ce que je peux parler rapidement de ce petit article?
C'est à propos du climat ou pas?
Oui, c'est à propos du climat. Ça s'appelle Climat, les raisons de l'inaction. Et j'aime bien. Donc c'est un magazine.
Je finirai par demander quelque chose, mais j'irai après.
Oui. C'est un magazine qui s'appelle Cerveau et Psycho, et justement c'est un article qui a été écrit à la suite de la démission de Nicolas Hulot dont tu parlais à l'instant. Et j'aime bien l'éditorial qui vous dit vous êtes avec quelques amis dans une maison en flammes, il n'y a aucune issue et par la fenêtre on voit les flammes lécher les murs en remontant du rez-de-chaussée. Il reste un peu de café pour ceux qui en veulent. Que faites-vous? Un, vous vous dites qu'il vous reste au moins 5 minutes avant que les flammes n'atteignent votre étage et que vous avez bien le temps de prendre un café. Deux, vous pensez que vous résistez plutôt bien aux flammes. Les autres vont certainement rôtir, mais vous, ça devrait aller. 3. Vous avez tout de suite repéré le truc. Ces flammes ne sont pas réelles. Ce sont des effets spéciaux créés par des gens qui veulent vous effrayer, peut-être pour prendre le café qui est dans la pièce. 4. En fait, vous n'êtes pas du tout sûr que ces flammes soient vraiment truquées. Mais ce que vous voyez, c'est que plusieurs de vos camarades sont d'accord avec vous. Et ça, c'est intéressant parce que ça va vous permettre de vous liguer contre les autres pour prendre tout le café qui reste. Résultat du test, si vous avez répondu 1, 2, 3 ou 4, vous êtes mort. Si vous avez répondu une quelconque combinaison aussi d'ailleurs, le problème, une partie très importante de l'humanité, confrontée aux échéances climatiques catastrophiques qui se profilent, a tendance à répondre 1, 2, 3 ou 4. Voilà. Et donc, c'est tout un article qui est fantastique et qui explique, qui parle notamment des raisons pour lesquelles la façon que les gens ont de réagir aux problèmes climatiques.
Parce que c'est trop difficile à accepter.
Certaines personnes sont dans le déni. Il y a ceux aussi qui disent que c'est un complot. c'est par exemple Donald Trump en tête avec. Et donc c'est un article qui est assez intéressant sur justement la réaction des gens. Et juste dernière petite chose, et puis je te redonne la parole. Il parle des universitaires. Ils disent en fait, ils ont montré le film de Gore qui s'appelait An Inconvenient Truth. Oui. Donc ils ont montré à un certain nombre de personnes. C'est des chercheurs qui ont fait ça. Ils leur ont montré le film. Tout le monde était d'accord avec, intéressé par l'idée, etc. Certains avaient même l'intention d'opérer des changements dans leur vie, et un mois plus tard, personne n'avait rien mis en place.
Et donc,
ils évoquent tous ces trucs-là. Et la dernière chose qui est assez marrante, c'est chez les scientifiques, il y a un problème. Ils disent, par exemple, en 2018, une étude de terrain réalisée par Lorraine Widmarsh à l'université de Cardiff au Royaume-Uni et ses collaborateurs fait état de résultats surprenants. Même si les chercheurs interrogés, 1408 chercheurs représentant 30 universités dans le monde entier, travaillant sur le changement climatique, expriment l'intention de réduire leur nombre de déplacements professionnels en avion, il n'en est rien dans les faits. Ces chercheurs utilisent plus ce moyen de transport que ceux qui ne travaillent pas sur le climat. Et les plus âgés, qui ont souvent une plus grande expertise sur le sujet, en font un usage plus grand encore. Ici aussi, l'intention de réduire ses voyages professionnels en avion, même chez un scientifique, ne prédit pas le comportement qui lui est conforme.
Mais tu sais, tu ne m'étonnes pas du tout. Donc tout ça, c'est les gens qui ont rien compris, qui sont encore dans l'inconscience et qui nous aident pas. Donc moi, pour moi, il n'existe plus. Je ne prononce même plus le nom du président des États-Unis. Je ne perds pas une seconde. Il n'existe pas pour moi. Je me concentre complètement sur le positif, les gens comme Zero Waste New Zealand, France et New Zealand, parce que je fais partie de New Zealand, donc je suis Zero Waste New Zealand, je fais partie de Grayling Transition Town, je fais partie de Eco Matters ici, je fais partie de Boycott Citoyen, de tas de trucs sur Internet, je fais partie de Greenpeace, je fais partie de Sea Shepherd, je fais partie de... En fait, ça m'aide, quoi. Je me dis, je suis pas toute seule. Hein. Ouh, je fais partie des Amis de la Terre, je leur donne de l'argent, je leur donne du temps, je vais bosser pour eux l'année prochaine. Il y a du travail. Donc, pour moi, ça va, quoi. J'ai un état d'esprit positif. Mais quand j'ai pris conscience de ça, il y a pas longtemps, en fait. Quand est-ce que j'ai pris conscience de ça? Il y a pas longtemps. Parce que j'ai pris conscience de ça d'une manière assez, le jour où j'ai écouté, en fait, je me rappelle bien, Aurélien Barreau, qui est un astrophysicien de 44 ans, taureau, qui a deux enfants, astrophysicien français, et aux cheveux longs. Donc, il a tout à fait l'air d'un gourou et pas mal. Et il a dit, ça suffit, quoi. Il a, après les 15 000 scientifiques du JIEC, J-I-E-C, parce que c'est en anglais, qui avait signé des pétitions, et il en a fait une autre avec 200 personnes. Donc c'est Juliette Binoche qui est beaucoup plus
médiatique
et intelligente aussi, Marie aussi, qui a mis ça en place. Et enfin, c'est lui, et il lui a demandé de se joindre, elle a tout de suite fait. Donc on a des gens comme Catherine Deneuve, même Alain Delon, qui on s'en fiche, qui est nazi ou qui est proche de Le Pen, signé. Donc c'est bien que des gens de tous les bords se rendent compte qu'il faut taper du poing sur la table et leur dire, excusez-nous, ben là, vous faites n'importe quoi, rendez-nous le pouvoir et on change les lois. Donc, c'est un mouvement contestataire. Et ce gars qui s'appelle Aurélien Barreau, Barreau, B-A-2-R-A-U, si vous l'écoutez, mais vous l'écoutez ouvert d'esprit, hein, il va vous faire très peur, mais il dit tellement la vérité, c'est tellement clair, c'est tellement intelligent, il a tellement les faits. Et puis, il étudie l'astrophysique. Donc, l'astrophysique, pour les gens qui savent ce que c'est, et je sais très peu ce que c'est quand même voir l'avenir. Hein? Donc, on voit ce qui se passe, on se projette, et c'est des gens qui sont complètement... Einstein faisait ça, c'est pas...
Mais après, Séverine, ce qui est important, oui, peut-être aussi, c'est de donner des astuces aux gens. Donc, il y a la page On est prêt sur Facebook, parce que là, on n'a pas beaucoup de temps.
Il est encore temps.
Non, c'est On est prêt sur Facebook. C'est Il est encore temps qu'ils organisent et ils donnent des astuces parce que les gens, ils sont perdus, ils ne savent pas comment changer. Et là, ils donnent quelques petites astuces qui peuvent aider à démarrer déjà.
C'est très petit. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'ils prennent conscience, qu'ils arrêtent de dire que c'est n'importe quoi et qu'ils prennent ça au sérieux. Parce que le sérieux a changé de camp. Donc, moi, mon gros problème, c'est que les gens ne m'écoutent. Je sens le regard hautain, détaché et assez méprisant. Et ça, bon, j'essaie de pas faire attention, mais c'est un peu tous les jours fatigant. Donc, la plus importante, la prise de conscience, parce que leurs petits actes, c'est 0,22%, c'est rien. Ce qu'il faut, c'est
parce s'engager. Que t'es en train de dire que ça sert à rien de faire des petits actes.
Oui, ça sert à rien, je le sais. J'ai étudié, ça sert à rien de faire des petits actes. Ce qu'il faut, c'est faire des gros actes. Et des gros actes, on va les faire au niveau politique.
Les petits actes, c'était la première à parler des colibris et de la goutte que chacun met aussi.
C'était avant d'en savoir plus, Paul Blandine. Mmh. C'était avant d'en savoir plus et de lire tous les jours.
Si tu multiplies par le nombre de personnes les petites actions,
La première chose, c'est la prise de conscience.
Ils disent, tu vois un film et les gens réagissent pas un mois plus tard, donc ils prennent conscience de la chose.
Ils n'ont pas vraiment pris conscience alors. Mmh. Si on prend conscience et que surtout on a des enfants. Et qu'on dit on va laisser ce monde en guerre et très moche à nos enfants, on est obligé de... En plus, on n'est pas obligé de faire des choses... je veux dire, tout le monde pourra avoir du travail, on va beaucoup plus partager, ça va être beaucoup plus... C'est fini le capitalisme, quoi. C'est vraiment fini. Donc on change de job si on est dans l'industrie laitière et l'industrie pétrolière et toutes les industries qui polluent, on change de job. De toute façon, c'est des gens qui sont... c'est des pions, on peut les... Donc ils ont qu'à changer. Ils changent de job assez facilement.
Et alors toi, qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps.
Moi, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est que comme il y a une marche, merci Sylvie, qui est dans les pays francophones le 8 décembre 2018 pour le climat, elle ne se déroule pas à Auckland, j'ai envie de la démarrer.
Donc et moi, ceux qui sont en France, en Belgique, en Suisse, sortez le 8 décembre.
Donc on pourrait aller et marcher, je ne sais pas où, sur Ponsonby Road, sur Queen Street.
Et là, tu nous prépares quelque chose et puis on vient.
Merci. Rendez-vous le 8 décembre.
Tu ne seras pas là, Blandine.
Ah non, je le ferai en France.
Merci. Oh, ça sera super.
Dans toutes les villes de France.
Voilà. Bon, merci d'avoir écouté aussi patiemment.
On va écouter une musique, alors qui n'a rien à voir, mais ça va te rappeler une belle histoire. Ça te dit quelque chose?
Une belle histoire, oui, de Michel Fugain.
Oui.
Oui, c'est beau.
C'est parti.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le midi, le midi.
Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur le tour de tes vacances, c'était sans doute un jour de chance.
Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain?
Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant.
Se sont racontés leur vie qui commençait.
Il était encore que
des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin.
Bon, mais sur cette note positive, on va se quitter. Merci Séverine.
Merci.
Merci Sylvie, merci Max.
Merci.
Merci.
Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même lieu. Et gardez les yeux ouverts si Séverine nous organise une marche sur Auckland.
Voilà.
Au revoir. Ça sera sur
merci.
Facebook.
Au revoir.
Bonne soirée.
C'est une belle histoire.